Lucien Leven, deuxième volume, chapitre 27. Leven avait manqué à un devoir de caserne. L'appel du soir avait eu lieu sans lui, et il était de semaine. Il courut bien vite chez l'adjudant, qui lui conseilla de s'aller dénoncer au colonel. Ce colonel était ce qu'on appelait en 1834 un juste milieu forcené, et comme tel, fort jaloux de l'accueil que Leven recevait dans la bonne compagnie. Le manque de succès dans ce quartier, comme disent les Anglais, pourrait retarder le moment où ce colonel si dévoué serait fait général, aide de camp du roi, etc., etc. Il ne répondit à la démarche du sous-lieutenant que par quelques mots fort secs qui le mettaient aux arrêts pour 24 heures. C'était tout ce que celui-ci craignait. Il rentra chez lui pour écrire à Madame de Chastelet. Mais quel supplice de lui écrire une lettre officielle, et quelle imprudence de lui écrire sur les choses dont il osait lui parler. Cette idée l'occupa toute la nuit. Après 1000 incertitudes, Leven envoya tout simplement un domestique porter à l'hôtel de Pontlevé une lettre qui pouvait être vue de tous. Il n'osait en vérité écrire autrement à Madame de Chastelet. Tout son amour était revenu, et avec lui, l'extrême terreur qu'elle lui inspirait. Le surlendemain, à 4 heures du matin, Leven fut réveillé par l'ordre de monter à cheval. Il trouva tout en émoi à la caserne. Un sous-officier d'artillerie était fort affairé à distribuer des cartouches aux lanciers. Les ouvriers d'une ville, à 8 ou 10 lieues de là, venait, dit-on, de s'organiser et de se confédérer. Le colonel Malheur parcourait la caserne en disant aux officiers de façon à être entendu des lanciers. « Il s'agit de leur donner une leçon qui compte au piqué. Pas de pitié pour ces b-b-là. Il y aura des croix à gagner. » En passant sous les fenêtres de Madame de Chastelet, Leven regarda beaucoup, mais il ne put rien apercevoir derrière les rideaux de mousseline brodée parfaitement fermés. Leven ne put pas blâmer Madame de Chastelet. Le moindre signe pouvait être aperçu et commenté par tous les officiers du régiment. Madame d'Aucuincourt n'eut pas manqué de se trouver à la fenêtre, mais aimerais-je Madame d'Aucuincourt ? Si Madame de Chastelet se fût trouvée à la fenêtre, Leven eût trouvé adorable cette marque d'attention. Le fait est que toutes les dames de la ville occupaient les fenêtres de la rue de la Pompe et de la suivante, que le régiment avait à parcourir pour sortir de la ville. La 7e compagnie où était Leven précédait immédiatement une demi-batterie d'artillerie, mèches allumées. Les roues des pièces et des caissons ébranlaient les maisons de bois de Nancy, et causait à ces dames une terreur pleine de plaisir. Leven salua Mesdames d'Aucuincourt, de Puy-Laurent, de Serpierre, de Marcilly. « Je voudrais bien savoir, » pensait Leven, « qui, elles, haïssent le plus de Louis-Philippe ou des ouvriers ?» Et Madame de Chastelet n'a pas su partager la curiosité de toutes ces dames et me donner cette petite marque d'intérêt. Me voilà allant sabrer des tisserands, comme dit élégamment M. de Vassigny. Si l'affaire est chaude, le colonel sera fait commandeur de la Légion d'honneur. Et moi, je gagnerai un remords. Le 27e de Lancier employa 6 heures pour faire les 8 lieues qui séparent Nancy de N. Le régiment était retardé par la demi-batterie d'artillerie. Le colonel Malheur reçut 3 estafettes et à chaque fois il fit changer les chevaux des pièces de canon. On mettait à pied les lanciers dont les chevaux paraissaient les plus propres à tirer les canons. À moitié chemin, M. Fléron, le sous-préfet, rejoignit le régiment au grand trot. Il le longea de la queue à la tête pour parler au colonel et eut l'agrément d'être hué par les lanciers. Il avait un sabre que sa taille exiguë faisait paraître immense. Le murmure sourd se changea en éclat de rire, qu'il chercha à éviter en mettant son cheval au galop. Le rire redoubla avec les cris ordinaires. Il tombera, il ne tombera pas. » Mais le sous-préfet eut bientôt sa revanche. À peine engagé dans les rues étroites et sales de N, les lanciers furent hués par les femmes et les enfants des ouvriers placés aux fenêtres des pauvres maisons, et par les ouvriers eux-mêmes, qui de temps en temps paraissaient au coin des ruelles les plus étroites. On entendait les boutiques se fermer rapidement de toutes parts. Enfin, le régiment déboucha dans la grande rue marchande de la ville. Tous les magasins étaient fermés, pas une tête aux fenêtres, un silence de mort. On arriva sur une place irrégulière et fort longue, garnie de 5 ou 6 mûriers rabougris et traversée dans toute sa longueur par un ruisseau infect chargé de toutes les immondices de la ville. L'eau était bleue parce que le ruisseau servait aussi d'égout à plusieurs ateliers de teinture. Le linge étendu aux fenêtres pour sécher faisait horreur par sa pauvreté, son état de délabrement et sa saleté. Les vitres des fenêtres étaient sales et petites, et beaucoup de fenêtres avaient, au lieu de vitres, du vieux papier écrit et huilé. Partout une vive image de la pauvreté qui saisissait le cœur. Mais non pas les cœurs qui espéraient gagner la croix en distribuant des coups de sabre dans cette pauvre petite ville. Le colonel mit son régiment en bataille le long de ce ruisseau. Là, les malheureux lanciers, accablés de soif et de fatigue, passèrent 7 heures, exposés à un soleil brûlant du mois d'août, sans boire ni manger. Comme nous l'avons dit, à l'arrivée du régiment, toutes les boutiques s'étaient fermées et les cabarets plus vite que le reste. « Nous sommes frais !» criait un lancier. « Nous voici en bonne odeur !» répondait une autre voix.
« Silence !»
glapissaient quelques lieutenants juste milieu. Levaine remarqua que tous les officiers qui se respectaient gardaient un silence profond et avaient l'air fort sérieux. « Nous voici à l'ennemi !» pensait Levaine. Il s'observait lui-même et se trouvait de sang-froid, comme à une expérience de chimie à l'école polytechnique. Ce sentiment égoïste diminuait beaucoup de son horreur pour ce genre de service. Le grand lieutenant Grêlé, dont le lieutenant-colonel Filoto lui avait parlé, vint lui parler en jurant des ouvriers. Levaine ne répondit pas un mot et le regarda avec un mépris inexprimable. Comme ce lieutenant s'éloignait, 4 ou 5 voix prononcèrent assez haut
« Espion ! Espion !»
Les hommes souffraient horriblement. 2 ou 3 avaient été forcés de descendre de cheval. On envoya des hommes de corvée à la grande fontaine. Dans le bassin, qui était immense, on trouva 3 ou 4 cadavres de chats récemment tués et qui avaient rougi l'eau de leur sang. Le filet d'eau tiède qui tombait du Triomphe était fort exigu. Il fallait plusieurs minutes pour remplir une bouteille. Et le régiment avait 380 hommes sous les armes. Le sous-préfet, réuni au maire, repassait souvent sur la place et cherchait, disait-on, dans les rangs, à acheter du vin.
« Si je vous vends, » répondaient les propriétaires, « ma maison sera pillée et détruite. »
Le régiment commençait à être salué toutes les 2 heures par un redoublement de huées. Au moment où le lieutenant espion le quittait, Levaine avait eu l'idée d'envoyer ses domestiques à 2 lieues de là, dans un village qui devait être paisible, car il n'y avait ni métier ni ouvrier. Ses domestiques avaient la commission d'acheter à tout prix 100 de pain et 3 ou 4 fets de fourrage. Les domestiques réussirent, et vers les 4 heures, on vit arriver sur la place 4 chevaux chargés de pain et 2 autres chargés de foin. À l'instant, il se fit un profond silence. Ces paysans vinrent parler à Levaine, qui les paya bien, et eut le plaisir de faire une petite distribution de pain aux soldats de sa compagnie.
« Voilà le républicain qui commence ses menées !» dirent plusieurs officiers qui ne l'aimaient pas.
Filoto vint, plus simplement, lui demander 2 ou 3 pains pour lui et du foin pour ses chevaux.
Ce qui m'inquiète, ce sont mes chevaux, dit spirituellement le colonel en passant devant ses hommes. Un instant plus tard, Levène entendit le sous-préfet qui disait au colonel
« Quoi, nous ne pourrons pas appliquer un coup de sabre à ces gredins-là »
« Il est beaucoup plus furibond que le colonel, » se dit Levène. « Le malheur ne peut guère espérer d'être fait général pour avoir tué 12 ou 15 tisserands, et M. Fléron peut fort bien être nommé préfet, et il sera sûr de sa place pour 2 ou 3 ans. »
La distribution faite par Levène avait révélé cette idée ingénieuse qu'il y avait des villages dans les environs de la ville. Vers les 5 heures, on distribua 1 livre de pain noir à chaque lancier et un peu de viande aux officiers. À la nuit tombante, on tira un coup de pistolet, mais personne ne fut atteint.
« Je ne sais pourquoi, » pensait Levène, « mais je parierais que ce coup de pistolet est tiré par ordre du sous-préfet. »
Sur les 10 heures du soir, on s'aperçut que les ouvriers avaient disparu. À 11 heures, il arriva de l'infanterie à laquelle on remit les canons et l'obusier, et à 1 heure du matin, le régiment de lanciers, mourant de faim, hommes et chevaux, repartit pour Nancy. On s'arrêta 6 heures dans un village fort paisible, où le pain se vendit bientôt 8 sous la livre et le vin 5 francs la bouteille. Le belliqueux sous-préfet avait oublié d'y faire venir des vivres. Pour les détails militaires, stratégiques, politiques, etc., etc., de cette grande affaire, voir les journaux du temps. Le régiment s'était couvert de gloire et les ouvriers avaient fait preuve d'une insigne lâcheté. Telle fut la première campagne de Levène. En revenant à Nancy, se disait-il, et en supposant que nous arrivions de jour, oserais-je me présenter à l'hôtel de Pontlevé ? Il osa, mais il mourait de peur en frappant à la porte cochère. Le cœur lui battait tellement en sonnant à la porte de l'appartement de Madame de Chastelet qu'il se dit « Mon Dieu, est-ce que je vais encore cesser de l'aimer ?» Elle était seule, sans Mademoiselle Bérard. Levène prit sa main avec passion. 2 minutes après, il fut sublime quand il se fut aperçu qu'il l'aimait plus que jamais. S'il avait eu un peu plus d'expérience, il se serait fait dire qu'on l'aimait. Avec de l'audace, il aurait pu se jeter dans les bras de Madame de Chastelet et n'être pas repoussé. Il pouvait du moins établir un traité de paix fort avantageux pour les intérêts de son amour. Au lieu de tout cela, il n'avança point ses affaires et fut parfaitement heureux. On avait dit et cru à Nancy que le coup de pistolet tiré par les ouvriers à N avait tué un jeune officier de lanciers. Bientôt, Madame de Chastelet eut peur. Elle comprenait la situation et se sentait attendrie. « Il faut que je vous renvoie, » lui dit-elle d'un air si triste qu'il voulait être sévère. Levène eut peur de la fâcher et il céda. « Ai-je l'espoir, madame, de vous revoir chez Madame d'Aucuincourt, c'est son jour. Peut-être bien, et vous n'y manquerez pas. Je sais que vous ne haïssez pas de vous trouver avec cette jeune femme si jolie. » 1 heure après, Levène était chez Madame d'Aucuincourt, mais Madame de Chastelet n'y vint que fort tard. Le temps s'envolait rapidement pour notre héros. Mais les amants sont si heureux dans les scènes qu'ils ont ensemble que le lecteur, au lieu de sympathiser avec la peinture de ce bonheur, en devient jaloux et se venge d'ordinaire en disant « Bon Dieu, que ce livre est fade !» Chapitre 28. Nous prendrons la liberté de sauter à pieds joints sur les 2 mois qui suivirent. Cela nous sera d'autant plus facile que Levène, au bout de ces 2 mois, n'était pas plus avancé d'un pas que le premier jour. Bien convaincu qu'il n'avait pas le talent de faire vouloir une femme, surtout s'il en était sérieusement amoureux, il se bornait à tenter de faire chaque jour ce qui, à l'heure même, lui faisait le plus de plaisir. Jamais il n'imposait une gêne, une peine, un acte de prudence,
au présent quart d'heure pour être plus avancé dans ses prétentions amoureuses auprès de madame de Chastelet dans le quart d'heure suivant. Il lui disait la vérité sur tout. Par exemple, « Mais il me semble, lui disait-elle un soir, que vous dites à monsieur de Serpierre des choses absolument opposées à celles que vous pensez, et que vous me dites à moi. Seriez-vous un peu faux? En ce cas, les personnes qui s'intéressent à vous seraient bien malheureuses. » Mademoiselle Bérard ayant usurpé le second salon, madame de Chastelet recevait Leveine dans un grand cabinet ou bibliothèque qui suivait le salon, dont la porte restait toujours ouverte. Quand le soir mademoiselle Bérard se retirait, la femme de chambre de madame de Chastelet s'établissait dans ce salon. Le soir dont nous parlons, on osait parler de tout fort clairement, nommer tout en toutes lettres. Madame Bérard était allée faire des visites et la femme de chambre qui la remplaçait était sourde. « Madame, reprit Leveine avec feu et une sorte d'indignation vertueuse, j'ai été jetée au milieu de la mer. Je nage pour ne pas me noyer et vous me dites du ton du reproche « Il me semble, monsieur, que vous remuez les bras. Avez-vous une assez bonne opinion de la force de mes poumons pour croire qu'il puisse suffire à refaire l'éducation de tous les habitants de Nancy? Voulez-vous que je me ferme toutes les portes et que je ne vous voie plus que chez vous? Et encore, bientôt on vous fera honte de me recevoir, comme on vous a fait honte de votre désir de retourner à Paris. Il est vrai que sur toute chose, même sur l'heure qu'il est, je crois, je pense le contraire des habitants de ce pays. Voulez-vous que je me réduise à un silence complet? À vous seule, madame, je dis ce que je pense sur tout, même sur la politique, où nous sommes si ennemis. Et pour vous seule, pour me rapprocher de vous, j'ai perfectionné cette habitude de mentir que j'adoptais le jour où, pour me défaire de la réputation de républicain, j'allais au pénitent guidé par l'honnête docteur du Poirier. Voulez-vous que dès demain je dise ce que je pense et que je rompe en visière à tout le monde? Je n'irai plus à la chapelle des pénitents chez madame de Marcilly. Je ne regarderai plus le portrait de Henri V. Comme chez madame de Commercy, je n'écouterai plus les homélies de monsieur Labéré, et en moins de 8 jours, je ne pourrai plus vous voir. « Non, je ne veux pas cela, » répondit-elle avec tristesse. « Et cependant, j'ai été profondément affligée depuis hier soir. Quand je vous ai engagée à aller parler un peu à mademoiselle Théodelinde et à madame de Puylaurent, je vous ai entendu dire à monsieur de Serpierre le contraire de ce que vous me dites. Monsieur de Serpierre m'a interceptée au passage. Maudissez la province, où l'on ne peut vivre sans être hypocrite sur tout, ou maudissez l'éducation que j'ai reçue, et qui m'a ouvert les yeux sur les 3/4 des sottises humaines. Vous me reprochez quelquefois que l'éducation de Paris empêche de sentir. Cela est possible, mais par compensation, elle apprend à y voir clair. Je n'y ai aucun mérite, et vous auriez tort de m'accuser de pédantisme. La faute en est aux gens d'esprit que réunit le salon de ma mère. Il suffit d'y voir clair pour être frappé de l'absurdité de messieurs de Puylaurent, Sanréal, Serpierre, d'Aucuncourt, pour comprendre l'hypocrisie de messieurs du Poirier, Flairon le sous-préfet, le colonel Malheur, tous coquins plus méprisables que les premiers, lesquels, plus par bêtise que par égoïsme, préfèrent naïvement le bonheur de 200 000 privilégiés à celui de 32 millions de Français. Mais me voici faisant de la propagande, ce qui serait employer bien gauchement mon temps auprès de vous. Hier, lequel vous semblait avoir raison, de monsieur Serpierre dont je ne combattais pas les raisonnements, ou de moi dont vous connaissez les véritables pensées? Hélas, tous les deux. Vous me changez, peut-être est-ce en mal. Quand je suis seule, je me surprends à croire que l'on m'a enseigné exprès de singuliers mensonges au couvent du Sacré-Cœur. Un jour que j'étais en différend avec le général, c'était monsieur de Chastelet, il me le dit presque en toutes lettres, et ensuite parut se repentir. Il venait de blesser son intérêt de mari. Il vaut mieux qu'une femme ennuie son mari faute d'esprit et qu'elle soit fidèle à ses devoirs. Là, comme ailleurs, la religion est le plus ferme appui du pouvoir despotique. Moi, je ne crains pas de blesser mes intérêts d'amant, ajouta Levène avec une noble fierté. Et après cette épreuve, je suis sûr de moi dans tous les cas possibles.
Prendre un amant est une des actions les plus décisives que puisse se permettre une jeune femme. Si elle ne prend pas d'amant, elle meurt d'ennui, et vers les 40 ans devient imbécile. Elle aime un chien dont elle s'occupe, ou un confesseur qui s'occupe d'elle. Car un vrai cœur de femme a besoin de la sympathie d'un homme, comme nous d'un partenaire pour faire la conversation. Si elle prend un amant malhonnête homme, une femme se précipite dans la possibilité des malheurs les plus affreux, etc., etc. Rien n'était plus clair, et quelquefois plus tendre dans l'intonation de voix que les objections de Madame de Chastelet. C'était après des conversations de ce genre qu'il semblait impossible à Levène que Madame de Chastelet eût eu une affaire avec le lieutenant-colonel du 20e régiment de hussards. Grand Dieu, que ne donnerais-je pas pour avoir pendant une journée le coup d'œil et l'expérience de mon père? Il aimait pour la première fois. Madame de Chastelier avait cette simplicité de caractère qui s'allie si bien avec la vraie noblesse. Elle se fut reprochée comme un crime avilissant la moindre fausseté, la moindre affectation envers les personnes qu'elle chérissait. Or, le seul fait de préférence passionnée qu'elle accordait à Levène, elle lui disait la vérité sur tout, avec un naturel, une vivacité que l'on rencontre rarement chez une femme de 22 ans. Je ne l'aimerai pas, se disait Levène, que les soirées que je passe près d'elle seraient encore les plus amusantes de ma vie. Elle ne lui avait jamais dit précisément qu'elle l'aimait, mais quand il raisonnait de sang-froid, ce qui, à la vérité, était fort rare, il en était bien sûr. Madame de Chastelet avait la récompense d'une âme pure. Quand elle n'était point effarouchée par la présence ou le souvenir d'êtres malveillants, elle avait encore la gaieté folle de la jeunesse. À la fin des visites de Levène, quand depuis 3/4 d'heure ou 1 heure il ne lui parlait pas précisément d'amour, elle était d'une gaieté folle avec lui. Oserais-je le dire, au point quelquefois de lui jouer des tours d'écolier qui seraient indécents à Paris, par exemple de lui cacher son shako. Mais si en cherchant ensemble ce shako, Levène avait l'indiscrétion de lui prendre la main, à l'instant Madame de Chastelet se relevait de toute sa hauteur. Ce n'était plus une jeune fille étourdie et heureuse, on eût dit une femme sévère de 30 ans. C'était le remords qui contractait ses traits à ce point. Levène était fort sujet à ce genre d'imprudence, et, nous le dirons à sa honte, quelquefois, assez rarement, l'éducation de Paris prenait le dessus. Ce n'était pas pour le bonheur de serrer la main d'une femme qu'il aimait qu'il prenait celle de Madame de Chastelet, mais parce que je ne sais quoi en lui disait qu'il était ridicule de passer 2 heures tête à tête avec une femme dont les yeux montraient quelquefois tant de bienveillance sans au moins lui prendre la main une fois. Ce n'est pas impunément que l'on habite Paris depuis l'âge de 10 ans. Dans quelque salon que l'on vive, dans quelque honneur qui soit tenu la simplicité et le naturel, quelque mépris que l'on y montre pour les grandes hypocrisies, l'affectation et la vanité du pays, avec ses petits projets, arrive jusqu'à l'âme qui se croit la plus pure. Il résultait de ces imprudences de Levène, et surtout de la franchise habituelle de sa manière d'être avec une femme pour laquelle son cœur n'avait aucun secret et qui lui semblait avoir infiniment d'esprit, que ses entreprises hardies faisaient tache au milieu de sa conduite de tous les jours. Madame de Chastelet voyait dans ses prétendus transports d'amour l'exécution d'un projet formé.
Dans ces instants, elle remarquait avec effroi, chez Leven, un certain changement de physionomie sinistre pour elle. Cette expression singulière rappelait à Madame de Chastelet les soupçons les plus sinistres et les plus faits pour reculer les espérances de Leven auprès d'une femme de caractère. À l'instant où Leven venait troubler un bonheur tranquille et intime par ses entreprises ridicules, les idées les plus fâcheuses se représentaient en foule à l'esprit troublé de Madame de Chastelet. Tout le bonheur de sa vie dépendait de la probité de Leven. Elle lui trouvait des manières charmantes, elle connaissait son esprit, mais sentait-il tout ce qu'il exprimait ou joignait-il à ses autres qualités celles de comédien habile? Il est jeune, il est riche, il porte un uniforme brillant, il vient de Paris, ne serait-ce après tout qu'un fat? Tout le monde le dit à Nancy. Il afficherait la timidité au lieu de la confiance naturelle à ces messieurs, parce qu'il me suppose un caractère sérieux, et moi j'ai la simplicité d'avoir en lui une confiance sans bornes. Que deviendrai-je si jamais je suis réduite à le mépriser? La possibilité de la fausseté chez l'homme qu'elle aimait allait jusqu'à inspirer à Madame de Chastelet des moments de fureur contre elle-même qu'elle n'avait jamais connus. Dans les moments où elle était assaillie de ses soupçons, on eût dit qu'elle était malade, tant le changement que ses idées imprimaient à ses traits était prompt, subit et profond. La physionomie qu'elle prenait tout d'un coup était faite pour ôter tout courage à l'amant le plus confiant. Et Leven était bien loin d'être cet amant confiant. Il n'avait pas même l'esprit de voir combien ses imprudences irritaient profondément Madame de Chastelet. Quoique bien traité en général, et se croyant aimé quand il était de sang-froid, Leven n'abordait cependant Madame de Chastelet qu'avec une sorte de terreur. Il n'avait jamais pu se guérir d'un certain sentiment de trouble en sonnant à sa porte. Il n'était jamais sûr de la façon dont il allait être reçu. À 200 pas de l'hôtel de Pontlevé, aussitôt qu'il l'apercevait, il n'était plus soi-même. Un fat du pays l'eût salué s'il lui eût rendu son salut avec trouble. La vieille portière de l'hôtel de Pontlevé était pour lui un être fatal, auquel il ne pouvait parler sans que la respiration lui manquât. Souvent, ses phrases s'embrouillaient en parlant à Madame de Chastelet, chose qui ne lui arrivait avec personne. C'était cet être-là que Madame de Chastelet soupçonnait d'être un fat, et qu'elle regardait, elle aussi, avec terreur. Il était à ses yeux le maître absolu de son bonheur. Un soir, Madame de Chastelet eut à écrire une lettre pressée. « Voilà un journal pour amuser vos loisirs !» dit-elle en riant et en jetant à Leven un numéro des débats. Et elle alla, en sautant, prendre un pupitre fermé qu'elle vint poser sur la table placée entre Leven et elle. Comme elle ouvrait le pupitre, en se penchant avec une petite clé attachée à la chaîne de sa montre, Leven se baissa un peu sur la table et lui baisa la main. Madame de Chastelet releva la tête, ce n'était plus la même femme. Il eût pu tout aussi bien me baiser le front, pensa-t-elle. La pudeur blessée la mit hors d'elle-même. Je ne pourrai donc jamais avoir la moindre confiance en vous. Et ses yeux exprimaient la plus vive colère. Quoi, je veux bien vous recevoir, quand j'aurais dû fermer ma porte pour vous, comme pour tout le monde. Je vous admets à une intimité dangereuse pour ma réputation et dont vous auriez dû respecter les lois. Ici, sa physionomie comme sa voix prirent l'air le plus altier. Je vous traite en frère. Je vous engage à lire un moment pendant que j'écris une lettre indispensable. Et sans à propos, sans grâce, vous profitez de mon peu de défiance pour vous permettre un geste aussi humiliant, à le bien prendre pour vous que pour moi. Allez, monsieur, je me suis trompé en vous recevant chez moi. Il y avait dans le son de sa voix et dans son air toute la froideur et toute la résolution prises que son orgueil pouvait désirer. Leven sentait fort bien tout cela et était atterré. Cette lâcheté de sa part augmenta le courage de Madame de Chastelet. Il aurait dû se lever, saluer froidement Madame de Chastelet et lui dire « Vous exagérez, madame. D'une petite imprudence sans conséquence, et peut-être sotte chez moi, vous faites un crime in folio. J'aimais une femme aussi supérieure par l'esprit que par la beauté, et en vérité, je ne vous trouve que jolie en ce moment. » En disant ces belles paroles, il fallait prendre son sabre, l'attacher tranquillement et sortir. Bien loin de là, sans songer à ce parti qu'il eût trouvé trop cruel pour soi et trop dangereux, Leven se bornait à être désolé d'être renvoyé. Il s'était bien levé, mais il ne partait point. Il cherchait évidemment un prétexte pour rester. « Je vous céderai la place, monsieur, » reprit Madame de Chastelet avec une politesse parfaite, au travers de laquelle perçait bien de la hauteur, et comme le méprisant de ce qu'il n'était point parti. Comme elle repliait son pupitre pour le transporter ailleurs, Leven, tout à fait en colère, lui dit « Pardon, madame, je m'oubliais !» Et il sortit, outré de dépit contre soi-même et contre elle. Il n'y avait eu de bon dans sa conduite que le ton de ses deux derniers mots. Mais encore, ce n'était pas talent, c'était hasard tout pur. Une fois hors de cet hôtel fatal et délivré des regards curieux des domestiques, peu accoutumés à le voir sortir à cette heure, « Il faut convenir, se dit-il, que je suis un bien petit garçon de me laisser traiter ainsi. Je n'ai absolument que ce que je mérite. Quand je suis auprès d'elle, au lieu de chercher à me faire une position un peu convenable, je ne songe qu'à la regarder comme un enfant. À mon retour de l'expédition de N, il y a eu un moment où il n'eût dépendu que de moi de m'assurer les privilèges les plus solides. J'aurais pu obtenir qu'elle me dît nettement qu'elle m'aime, et de l'embrasser chaque jour en entrant et en sortant. Et je ne puis pas même lui baiser la main. Oh, grand sot !» C'était ainsi que se parlait Leven, en fuyant par la principale rue de Nancy. Il se faisait bien d'autres reproches encore. Plein de mépris pour soi-même, il eut cependant l'esprit de se dire « Il faut faire quelque chose ». Il était assez embarrassé de sa soirée, car c'était le jour de Madame de Marcilly, maison d'une haute vertu, où, en présence d'un buste de Henri V, les bonnes têtes du pays se réunissaient pour commenter la quotidienne et perdre 30 sous au whist. Leven se sentait absolument hors d'état de jouer la comédie. Il eut l'idée heureuse de monter chez Madame d'Aucuncourt. De toutes les provinciales qui existèrent jamais, c'était celle qui avait le plus de naturel. Elle eût fait pardonner à la province. Elle avait un naturel impossible à Paris. Il y ferait perdre la côte. Chapitre 29. « Ah, vous me décidez, monsieur !» s'écria-t-elle en le voyant entrer. « Que je suis heureuse de vous voir. Je n'irai pas chez Madame de Marcilly. » Et elle rappela le domestique qui sortait pour dire de faire dételer les chevaux. « Mais comment faites-vous pour naître au pied de la sublime Chastelet ? Est-ce qu'il y aurait brouille dans le ménage ?» Madame d'Aucuncourt examinait Leven d'un air riant et malin. « Ah, c'est clair !» s'écria-t-elle en riant. « Cet air contrit m'a tout dit. Mon malheur est écrit dans ses traits altérés, dans ce sourire forcé. Je ne suis qu'un pis-aller. Allons, contez-moi, puisque je ne suis qu'une humble confidente, contez-moi vos chagrins. Sous quel prétexte vous a-t-on chassé? Vous chasse-t-on pour recevoir un homme plus aimable, ou vous chasse-t-on parce que vous l'avez mérité? Mais d'abord, soyez sincère si vous voulez être consolé. » Leven eut beaucoup de peine à se tirer passablement des questions de Madame d'Aucuncourt. Elle ne manquait point d'esprit, et cet esprit se trouvant tous les jours au service d'une volonté ferme et d'une passion vive, il avait acquis toutes les habitudes du bon sens. Leven était d'abord trop occupé de sa colère pour savoir donner le change. Dans un moment où, tout en répondant à Madame d'Aucuncourt, il pensait malgré lui à ce qui lui arrivait avec Madame de Chastelet, il se surprit adressant des propos galants, presque des choses aimables et personnelles à la jeune femme, qui, dans un négligé élégant et dans l'attitude de l'intérêt le plus vif, se trouvait à demi couché sur un canapé à deux pas devant lui. Dans la bouche de Leven, ce langage avait pour Madame d'Aucuncourt tout le mérite de la nouveauté. Leven remarqua que Madame d'Aucuncourt, occupée de l'effet d'une attitude charmante qu'elle regardait dans une armoire à glace voisine, cessait de le tourmenter sur Madame de Chastelet. Leven, devenu machiavélique par le malheur, se dit « Le langage de la galanterie, en tête-à-tête avec une jeune femme qui lui fait l'honneur de l'écouter d'un air presque sérieux, ne peut guère se dispenser de prendre un ton hardi et presque passionné. » Il faut avouer que Leven, en faisant ce raisonnement, trouvait un vif plaisir à n'être pas un petit garçon avec tout le monde. Pendant ce temps, Madame d'Aucuncourt allait sur son compte de découverte en découverte. Elle commençait à le trouver l'homme le plus aimable de Nancy. Cela était d'autant plus dangereux qu'il y avait déjà plus de 18 mois que durait Monsieur Dantin. C'était un règne bien long et qui étonnait tout le monde. Heureusement pour sa durée, le tête-à-tête fut interrompu par l'arrivée de Monsieur de Murcé. C'était un grand jeune homme maigre qui portait avec fierté une petite tête surmontée de cheveux très noirs. Fort taciturne au commencement d'une visite, son mérite consistait en une gaieté parfaitement naturelle et fort drôle à cause de sa naïveté, mais qui ne le prenait que lorsque depuis 1 heure ou 2 il se trouvait avec des gens gais. C'était un être profondément provincial, mais cependant fort aimable. Aucune de ses gaietés ne se serait dite à Paris, mais elles étaient fort drôles et lui allaient fort bien. Bientôt après, survint un autre habitué de la maison, Monsieur de Goëliot. C'était un gros homme, blond et pâle, de beaucoup d'instruction et d'un peu d'esprit, qui s'écoutait parler et disait une fois au moins par jour qu'il n'avait pas encore 40 ans, ce qui était vrai. Il avait 39 ans passés. Du reste, c'était un être prudent. Répondre oui à la question la plus simple ou avancer dans l'occasion une chaise à quelqu'un était un sujet de délibération qui l'occupait un quart d'heure. Quand il agissait ensuite, il affectait les formes de la bonhomie et de l'étourderie la plus enfantine. Depuis 5 ou 6 ans, il était amoureux de Madame d'Aucuncourt. Il espérait toujours que son tour viendrait, et quelquefois cherchait à faire croire aux nouveaux arrivants que son tour était déjà venu et passé. Un jour, au cabaret, Madame d'Aucuncourt, le voyant occupé de ce rôle, lui dit « Tu es un futur, mon pauvre Goëliot, qui se fait passer, mais qui ne sera jamais présent. » Car dans ces moments de fougue d'esprit, elle tutoyait ses amis, sans que personne n'y trouvât rien d'indécent. On voyait que c'était l'intimité du brio qui est à 1000 lieues des sentiments tendres. Monsieur de Goëliot fut suivi, à intervalles pressés, de 4 ou 5 jeunes gens. C'est en vérité tout ce qu'il y a de mieux et de plus gai dans la ville, se disait Leven en les voyant arriver. Je sors de chez Madame de Marcilly, dit l'un d'eux, où ils sont tout tristes et affectent d'être encore plus tristes qu'ils ne le sont. C'est ce qui est arrivé à N qui les rend si aimables. Moi, disait un autre, choqué de la façon dont Madame d'Aucuncourt regardait Leven. Quand j'ai vu que nous n'avions ni Madame d'Aucuncourt, ni Madame de Puylaurent, ni Madame de Chastelet, j'ai pensé que je n'avais d'autres ressources que d'enterrer ma soirée dans une bouteille de champagne, et c'était le parti que j'allais prendre si j'avais trouvé la porte de Madame d'Aucuncourt fermée au vulgaire.
« Mais, mon pauvre Terrant, reprit Madame d'Aucuncourt à cette allusion hostile à la réputation de Leven, on ne menace pas de s'enivrer, on s'enivre. Il faut avoir l'esprit de voir cette différence.
Rien de plus difficile, en effet, que de savoir boire, reprit le pédant Goëlo. On craignit une anecdote.
Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire?
S'écrièrent à la fois Murcé et un des contrôlés. C'était la question que tout le monde faisait, sans que personne trouvât la réponse. Quand parut Monsieur Dantin. Son air riant éclaircit tous les fronts. C'était un grand jeune homme blond de 28 à 30 ans, pour qui l'air sérieux et important était une impossibilité. Il eût annoncé l'incendie de la rue, que sa figure n'eût pas été lugubre. Il était fort joli homme, mais quelquefois on eût pu reprocher à sa charmante figure l'expression un peu louche et stupide de l'homme qui commence à s'enivrer. Quand on le connaissait, c'était une grâce de plus. Le fait est qu'il n'avait pas le sens commun, mais le meilleur cœur du monde et un fond de gaieté incroyable. Il achevait de manger une grande fortune qu'un père fort avare lui avait laissé depuis 3 ou 4 ans. Il avait quitté Paris, où on l'avait pourchassé pour des plaisanteries sur un personnage auguste. C'était un homme unique pour organiser les parties de plaisir. Rien ne pouvait languir dans les lieux où il se trouvait. Mais Madame d'Aucuncourt connaissait toutes ses grâces, et la surprise, élément si essentiel de son bonheur, était impossible. Goëlo, qui avait appris ce mot de Madame d'Aucuncourt, plaisantait lourdement Monsieur Dantin sur ce qu'il ne faisait plus rien de neuf, lorsque le comte de Vassigny entra.
« Vous n'avez qu'un moyen de durer, mon cher Dantin, lui dit Vassigny. Devenez raisonnable.
Je m'ennuierai moi-même. Je n'ai pas votre courage, moi. J'aurai bien le temps d'être sérieux quand je serai ruiné. Alors, pour m'ennuyer d'une manière utile, je compte me jeter dans la politique et dans les sociétés secrètes en l'honneur de Henri V, qui est mon roi à moi. Me donnerez-vous une place ? En attendant, messieurs, comme vous êtes fort sérieux et encore tout endormis de l'amabilité de l'hôtel Marcilly, jouons à ce jeu italien que je vous ai appris l'autre jour, le pharaon. Monsieur de Vassigny, qui ne le sait pas, taillera. Goëlo ne pourra pas dire que j'arrange les règles du jeu pour gagner toujours. Qui sait le pharaon ici ?
Moi, dit Leven.
Eh bien, soyez assez bon pour surveiller Monsieur de Vassigny et lui faire suivre les règles du jeu. Vous, Rollet, vous serez le croupier.
Je ne serai rien, dit Rollet d'un ton sec, car je file.
Le fait est que le comte Rollet croyait s'apercevoir que Leven, qu'il n'avait jamais rencontré chez Madame d'Aucuncourt, allait jouer un rôle agréable dans cette soirée. Ce que ne pouvant digérer, il sortit. Une bonne partie de la société de Nancy, surtout les jeunes gens, ne pouvait souffrir Leven. Il avait eu le triste avantage de leur faire 2 ou 3 réponses insolentes qui passèrent, même à leurs yeux, pour fort spirituelles et lui en firent des ennemis à la vie et à la mort.
Après le jeu, à minuit, reprit Dantin, quand vous serez ruinés comme de braves jeunes gens bien rangés, nous irons souper à la Grande Chaumière.
C'est le meilleur cabaret de Nancy, établi dans le jardin d'un ancien couvent de Chartreux.
« J'y consens, dit Madame d'Aucuncourt, si c'est un pique-nique.
« Sans doute, reprit Dantin.
Et comme Monsieur Lafitteau, qui a d'excellents vins de champagne, et Monsieur Piébaud, le seul glacier du pays, pourraient se coucher, je vais m'occuper, au nom du pique-nique, d'avoir du vin et de le faire frapper. J'enverrai à la Grande Chaumière. En attendant, Monsieur Leven, voilà 100 francs. Faites-moi l'honneur de jouer pour moi, et tâchez de ne pas séduire Madame d'Aucuncourt, ou je me venge,
et je passe à l'hôtel de Pontlevé pour vous dénoncer. »
Tout le monde obéit à ce qu'avait décidé Dantin, même le politique Vassini. On joua, et après un quart d'heure, le jeu fut très animé. C'était sur quoi Dantin avait compté pour chasser à jamais l'envie de bâiller, prise chez Madame de Marcilly.
« Je jette les cartes par la fenêtre, » dit Madame d'Aucuncourt. « Si quelqu'un ponte plus de 5 francs, est-ce que vous voulez faire de moi une marquise brelandière ?»
Dantin revint. On partit à 00h30 pour le jardin de la Grande Chaumière. Un petit oranger en fleurs, l'unique qui fût dans Nancy, se trouvait placé au milieu de la table. Le vin était parfaitement frappé. Le souper fut fort gai, personne ne s'enivra, et l'on se sépara les meilleurs amis du monde à 3h du matin. C'est ainsi qu'une femme se perd de réputation en province. C'est ce dont Madame d'Aucuncourt se moquait parfaitement. En se levant le lendemain matin, elle alla voir son mari, qui lui dit en l'embrassant « Tu fais bien de t'amuser, ma pauvre petite, puisque tu en as le courage. Sais-tu ce qui est arrivé à X ? Ce roi que nous haïssons tant se perd, et après lui la République, qui coupera le cou à lui et à nous. »
« À lui, non, il a trop d'esprit. Et quant à vous, je vous enlève au-delà du Rhin. »
Leven prolongea le plus possible sa demeure à l'hôtel d'Aucuncourt. Il sortit avec les derniers de ses compagnons de soirée. Il s'attacha à leur petite troupe qui s'allait diminuant à chaque coin de rue à mesure que chacun prenait le chemin de sa maison. Enfin, il accompagna fidèlement celui de ces messieurs qui demeurait le plus loin. Il parlait beaucoup et éprouvait une répugnance mortelle à se trouver seul avec soi-même. C'est que, à l'hôtel d'Aucuncourt, tout en écoutant les contes et l'amabilité de ces messieurs, et cherchant à conserver, par des mots bien placés, la position que Madame d'Aucuncourt semblait lui donner et qui n'était pas d'un petit garçon, il avait pris une résolution pour le lendemain. Il s'agissait de ne pas se présenter à l'hôtel de Pontlevé. Il souffrait. «
Mais il faut, se disait-il, avoir soin de son honneur, et si je m'abandonne moi-même, je verrai s'éteindre dans le mépris la préférence qu'il me semble quelquefois évident qu'elle a pour moi. D'un autre côté, Dieu sait quelle nouvelle insulte elle me prépare si j'arrive chez elle demain. »
Ces deux pensées qui se présentaient successivement furent un enfer pour lui. Ce lendemain arriva bien vite, et avec lui parut le sentiment vif du bonheur dont il allait se priver s'il n'allait pas à l'hôtel de Pontlevé. Tout lui semblait fade, décoloré, odieux, en comparaison de ce trouble délicieux qu'il trouverait dans la petite bibliothèque, en face de cette petite table d'acajou devant laquelle elle travaillait en l'écoutant parler. La seule résolution de s'y présenter changeait sa position dès ce moment.
« D'ailleurs, si je n'y vais pas ce soir, » ajoutait Leven, « comment m'y présenter demain ?»
Son embarras mortel avait recours au lieu commun.
« Veux-je, après tout, me fermer cette maison ? Et pour une sottise encore, dans laquelle peut-être j'avais tort. Je puis demander une permission au colonel et aller passer 3 jours à Metz. Je me punirais moi-même. J'y périrais de douleur. »
D'un autre côté, dans ses sentiments exagérés de délicatesse féminine, Madame de Chastelet n'avait-elle point voulu lui faire entendre qu'il fallait rendre ses visites plus rares, par exemple les réduire à 1 par semaine ? En se présentant si tôt dans une maison de laquelle il avait été exclu en termes si formels, ne s'exposait-il pas à redoubler la colère de Madame de Chastelet, et bien plus, à lui donner de justes motifs de plainte? Il savait combien elle était susceptible pour ce qu'elle appelait les égards dus à son sexe. Il est très vrai que dans sa lutte désespérée contre le sentiment qu'elle avait pour Leven, Madame de Chastelet,
mécontente du peu de confiance qu'elle pouvait avoir dans ses résolutions les plus arrêtées, était souvent irritée contre elle-même et lui faisait alors de bien mauvaises querelles. Avec un peu plus d'expérience de la vie, ces querelles, sans sujet raisonnable de la part d'une femme qui avait autant d'esprit et dont la modestie et l'équité naturelle étaient bien loin de s'exagérer les torts des autres. Ces querelles auraient montré à Leven de quel combat était le théâtre ce cœur qui l'assiégeait. Mais ce cœur politique avait toujours méprisé l'amour et ignoré l'art d'aimer, chose si nécessaire. Jusqu'au hasard qui lui avait fait voir Madame de Chastelet et au mouvement de vanité qui lui avait rendu désagréable l'idée qu'une des plus jolies femmes de la ville pût avoir de justes raisons de se moquer de lui, il s'était dit « Que penserait-on d'un homme qui, en présence d'une éruption du Vésuve, serait tout occupé à jouer au bilboquet ?» Cette image imposante a l'avantage de résumer son caractère et celui de ce qu'il y avait de mieux parmi les jeunes gens de son âge. Quand l'amour était venu remplacer dans le cœur de ce jeune Romain un sentiment plus sévère, ce qui restait de l'adoration du devoir s'était transformé en honneur, mal entendu. Dans la position actuelle de Leven, le plus petit jeune homme de 18 ans, pour peu qu'il eût eu quelque sécheresse d'âme et un peu de ce mépris pour les femmes si à la mode aujourd'hui, se fut dit « Quoi de plus simple que de se présenter chez Madame de Chastelet sans avoir l'air d'attacher la moindre importance à ce qui s'est passé hier, sans même faire mine de se souvenir le moins du monde de cette petite boutade d'humeur, mais prêt à faire toutes les excuses possibles de ce qui s'était passé et ensuite à parler d'autre chose, s'il se trouvait que Madame de Chastelet voulût encore attacher quelque importance au crime affreux de lui avoir baisé la main. » Mais Leven était bien loin de ses idées. Au point de bon sens et de vieillesse morale où nous sommes, il faut, j'en conviens, faire un effort sur soi-même pour pouvoir comprendre les affreux combats dont l'âme de notre héros était le théâtre, et ensuite pour ne pas en rire. Vers le soir, Leven, ne pouvant plus tenir en place, se promenait à pas inquiets sur un bout de rempart solitaire, à 300 pas de l'hôtel de Pontlevé. Comme Tancred, il se battait contre des fantômes, et il avait besoin d'un grand courage. Il était plus incertain que jamais, lorsqu'une certaine horloge qu'il entendait de fort près, lorsqu'il se trouvait dans la petite chambre de Madame de Chastelet, vint à sonner 7h30, avec cette foule de quarts et de demi-quarts dont les heures sont entourées dans les horloges presque allemandes de l'est de la France. Le son de cette cloche décida Leven. Sans se rendre compte de rien, il eut le vif souvenir de l'état de bonheur qu'il goûtait tous les soirs en entendant ses demi-quarts, et il prit en dégoût profond les sentiments tristes, cruels, égoïstes, auquel il était en proie depuis la veille. Il est sûr qu'en se promenant sur ce triste rempart, il voyait tous les hommes bas et méchants. La vie lui semblait aride et dépouillée de tout plaisir et de ce qui fait qu'il vaut la peine de vivre. Mais au son de la cloche, électrisé par cette communauté de sentiments de deux âmes grandes et généreuses, du fait qu'elles s'entendent à demi-mot, il précipita ses pas vers l'hôtel de Pontlevé. Il passa rapidement devant la portière. « Où allez-vous, monsieur ?» lui cria-t-elle de sa petite voix tremblante et en se levant de son rouet comme pour lui courir après. « Madame est sortie. »«
Quoi ? Elle est sortie ? Vraiment ?»
dit Lucien. Et il restait anéanti et comme pétrifié. La portière prit son immobilité pour de l'incrédulité. « Il y a près d'une heure, » reprit-elle avec un air de candeur, car elle aimait Leven. « Vous voyez bien la remise ouverte, et le coupé n'y est pas. » Leven prit la fuite à ses paroles, et en 2 minutes, il fut de nouveau sur son rempart. Il regardait, sans voir, le fossé fangeux, et au-delà, la plaine aride et désolée.
Il faut avouer que j'ai fait là une jolie expédition. Elle me méprise, et au point de sortir exprès une heure avant celle où elle me reçoit tous les jours. Digne punition d'une lâcheté. Ceci doit me servir de règle pour l'avenir. Si je n'ai pas le courage de résister de près, eh bien, il faut solliciter une permission pour Metz. Je souffrirai, mais personne ne voit l'intérieur de mon cœur, et l'éloignement des lieux me sauvera de la possibilité de commettre ces sortes de fautes qui déshonorent. Oublions cette femme orgueilleuse. Après tout, je ne suis pas colonel. Il y a plus que de la folie à moi. Il y a insensibilité au mépris de s'obstiner à lutter contre l'absence de rang. Il vola chez lui, attela lui-même les chevaux à sa calèche, en maudissant la lenteur du cocher, et se fit conduire chez madame de Serpierre. Madame était sortie, et la porte était fermée. C'est évident, toutes les portes sont fermées pour moi aujourd'hui. Il monta sur le siège et alla au galop au chasseur vert. Les dames de Serpierre n'y étaient point. Il parcourut avec fureur les allées de ce beau jardin. Les musiciens allemands buvaient dans un cabaret voisin. Ils l'aperçurent et coururent après lui. « Monsieur, monsieur, voulez-vous les duos de Mozart ?»« Sans doute. » Il les paya et se jeta dans sa voiture pour regagner Nancy. Il fut reçu chez madame de Commercy, où il fut d'une gravité parfaite. Il y fit deux robes de whist avec Monsieur Ré, grand vicaire de Monseigneur l'évêque de Nancy, sans que ce vieux partenaire grognon pût lui reprocher la moindre étourderie.